Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse ce petit message pour vous prévenir que la qualité audio aujourd'hui n'est pas au top car j'avais mal connecté mon micro lors de l'enregistrement et je m'en excuse d'avance. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant et je vous souhaite une très bonne écoute.
Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wa salam ala rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre la révélation, une série que j'ai le plaisir d'enregistrer comme d'habitude avec le professeur Fathallah Outhmani. Salam alaikum Fathallah.
Alaykoum salam wa rahmatullah.
Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du verset numéro 2 de la sourate Nasr, le secours.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on essaierait de traiter le verset 2. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et quand tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors forcément, on va faire le lien avec ce qui précède et ce qui suit, mais ce verset-là en particulier, je pense qu'il a un impact important par rapport à des phénomènes qu'on vit, nous, à notre époque, de manière importante. Parce que quand on lit ce verset, très souvent, on le lit en ayant une approche... Je peux pas dire qu'il y a une approche négative, mais on est très focalisé sur l'approche positive, c'est-à-dire que les gens sont rentrés en masse dans la religion, c'est pour beaucoup de commentateurs, la dernière sourate révélée entièrement au prophète, alayhi salatu wassalam. Certains disent qu'il y a d'autres versets qui ont été révélés, mais qui font partie d'autres sourates, mais elle fait partie des dernières révélations en tout état de cause. Et à ce moment-là, ben, les gens rentrent en masse dans la religion. Ils viennent adhérer au message de l'islam. Et ce verset, il est juste après « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ » lorsque le secours d'Allah ainsi que la victoire viennent. Et on pourrait se dire, ben, c'est ce qui illustre le secours d'Allah et c'est ce qui illustre la victoire. Mais il y a plusieurs éléments qui viennent relativiser. Déjà, il y a le tafsir connu d'Ibn Abbas qui dit que la signification de cette sourate, c'est l'annonce de la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on n'est plus dans une approche au moment de la victoire, on est dans la joie et dans l'exaltation, etc. On se rend compte que celui qui est considéré comme le savant du commentaire du Coran, parmi les compagnons, il y voit un sens beaucoup plus... qui vient bousculer la mort du prophète, alayhi salam, c'est pas forcément une annonce dont on se réjouit, même si on sait qu'il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que cette vie-là est éphémère, on sait que... Mais voilà, qu'on aurait voulu aussi le rencontrer de ce monde-là, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de le rencontrer dans l'autre monde. Mais on voit qu'on est loin de l'exaltation de départ, dans ce commentaire. Puis la deuxième des choses, c'est que le terme « afwaja », qui est employé ici pour décrire les phénomènes de masse, hein, les gens qui rentrent dans la religion d'Allah en masse, ce terme-là a une connotation plutôt négative dans le Coran. Ce n'est pas un terme qui est employé déjà dans la même forme. Quand on reprend le terme afwaja, il est utilisé dans Sourate Naba, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yawma yunfakhu fi ssouri fata'tuna afwaja », hein, le jour où ils souffleront dans la trompe, vous viendrez en masse. Et donc, on se rend compte que pareil, le terme, là, il est utilisé par rapport à Yawm al-Qiyamah, où on est en état d'alerte, où on est dans une situation délicate et difficile, on va devoir rendre des comptes. Hein, de la même manière que même un des dérivés de ce mot-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de fawj, « Hada fawjum muqtahimum ma'akum, la marhaban bihim, innahum salun nar » Voici un groupe, hein, le Fawj, c'est le groupe, c'est qui entre en même temps que vous, en fait, on va dire, qui sont dans vos pas. La marhaban bihim, ils ne sont pas les bienvenus. Innahum salun nar, ils sont destinés à l'enfer. Donc c'est un groupe qui est venu se coller là aux musulmans et qui pense qu'ils peuvent être parmi eux, mais en réalité, ils ne sont pas parmi eux. Et donc on voit que la terminologie liée au... Enfin, que cette terminologie-là, elle a plutôt une terminologie, je ne veux pas dire négative, mais attention, faites attention, c'est pas forcément le... Et Allah subhanahu wa ta'ala n'utilise pas des mots par hasard. Et bien, je voulais vraiment m'orienter, moi, sur ce terme-là, parce que on a une conception de la victoire et de la réussite qui est souvent faussée. Et on détermine la victoire et la réussite par la quantité, par le nombre dans nos instituts. Combien vous avez d'inscrits? Ah, vous avez tant d'inscrits, machallah, etc. OK. Vous avez fait une conférence, il y avait combien de personnes? Ah, machallah, c'était extraordinaire. Vous avez distribué des repas pour des... Vous avez fait combien de repas? Ah, machallah, etc. On est beaucoup dans le combien, alors que... Alors, ce matin, il dit... Le plus, il vous a illusionné. Même quand vous allez visiter des tombes, jusqu'à ce que vous alliez visiter des tombes, selon la traduction. Donc, c'est pas la quantité n'est pas un critère, en fait. Et le pire, c'est quand la quantité devient un phénomène de masse, bah, ça devient même dangereux. Et à la fin de la vie du prophète, salam, ce verset, c'est un verset en même temps qui décrit, en effet, le message du prophète, lorsque la victoire d'Allah, le secours d'Allah et la victoire, ben, ils viennent. Et les gens ont la possibilité de diffuser le message, ça y est, elle est installée. Il y a les remparts qui empêchaient le fait de faire circuler le message, de proposer le message aux gens, ont été cassés, ont été brisés. Et donc, alhamdoulilah, il y a une part de victoire. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, forcément, il y a des gens qui rentrent. Mais il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce que les gens rentrent qu'on est dans une victoire ou qu'on est dans une réussite. Ça ne veut pas dire que parce que les gens rentrent, on est dans un échec. Ce n'est pas le propos. Hein, la quantité ne signifie pas que ah, ça va mal parce qu'on a tant d'inscrits dans notre institut, on fait n'importe quoi, etc. Le problème, ce n'est pas ça qui détermine. Que vous ayez 5 inscrits, que vous en ayez 5 000, qu'est-ce que vous faites avec eux? Est-ce que vous arrivez à transmettre le message? Est-ce que vous arrivez à vous conformer au message? Est-ce que vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait un vrai islah, un vrai assainissement des modes de vie, hein? Et donc là, on va pouvoir évoluer. Et c'est pour ça que, évaluer plutôt, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il leur dit? Au moment de la victoire, bah ça y est, les gens, ils vont vers la facilité, en fait. Que ce soit la religion d'Allah ou que ce soit le péché, les gens, ils vont vers la facilité. On leur a enlevé les barrières, et moi, ils vont aller vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas parce que les gens vont en masse vers quelque chose qu'il faut suivre nous aussi bêtement en masse. Hein, même, j'ai envie de dire, dans la religion, même dans la... J'avais un cheikh qui nous disait, même par rapport aux questions d'Aqida, etc. Il faut se les poser. C'est des questions, le wahid, il doit adhérer par conviction. C'est pas, on suit comme ça, on suit tout le temps. Et donc, c'est des enjeux qui sont cruciaux. C'est ça. On est en train de parler de notre agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'inverse. On est en train de parler de notre place au paradis ou de notre place en enfer. On peut pas suivre comme ça. Et donc, il faut à un moment donné se poser des questions. Bien sûr, on a besoin de repères, on a besoin de gens qui ont un savoir plus important, on a besoin de s'identifier, etc., de se relier les uns aux autres. Mais on a nos propres convictions personnelles. Et c'est pour ça que face à ces mêmes phénomènes de masse qu'a connu le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, nous fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika, c'est traduit par glorifier. Alors, comment il traduit Hamidullah déjà? Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur. Mais tasbih, en langue arabe, c'est deux significations. Ça vient de sabaha. Sabaha, c'est le fait de nager. Donc, c'est tasbih, c'est le fait de remonter à la surface, hein, mais dans deux sens différents. C'est que toi, quand tu es noyé dans tes problèmes, ben, tu remontes à la surface et tu te laisses pas noyer dans tes problèmes et tu reconnais qu'il y a quelque chose de plus important. C'est-à-dire que tu es noyé dans l'eau, ok, tu vois pas, mais il y a une issue, il y a une porte qui est ouverte quelque part, remonte à la surface. Et la deuxième signification possible, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui est plus important. C'est-à-dire que tasbih, c'est remonter au-delà. Va voir au-dessus ce qu'il y a de plus important. Tu vois les gens rentrer en masse, c'est pas ça qui est le plus important. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi? Est-ce que tu as été en cohérence avec le message du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu es en cohérence avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Et donc, par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fasabbih, par quoi? Bihamdi rabbik. Par les louanges à ton Seigneur. Hein? C'est-à-dire que dans ces moments-là, on doit être plus dans la reconnaissance et pas dans l'exaltation de... Et la reconnaissance en islam, elle est empreinte d'humilité. On peut avoir de la joie, mais ça doit toujours être une joie humble. Parce que c'est pas parce qu'il y a de la quantité que ça y est, on a réussi, on est les meilleurs, on est ceci. Non, on a juste plus de responsabilités. Comme les compagnons ont été confrontés à plus de responsabilités. Et finalement, quand les gens sont rentrés en masse, Ben, il y a eu d'autres types d'épreuves qui sont arrivées. Il y a eu la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, puisque ce soir-là, tu as l'annonce, la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis après, il y a eu la période de Mousseïlama al-Kadhdhab qui a voulu, et donc le conflit avec Abou Bakr, il y a eu d'autres affrontements, etc. Il y a eu la période de Fitna. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes que les compagnons ont dû gérer. Et en fait, la quantité qui est venue, c'est juste une nouvelle épreuve différente, en fait. Où est-ce qu'on va être dans ces épreuves-là, en cohérence avec le message, ou est-ce qu'on va perdre notre cohérence? Parce que parfois, dans des petits cercles de proximité, on sait être cohérent. Quand on enseigne, il y a quelques élèves, etc. et tout. Mais quand on a 200 ou 300 ou 2000, est-ce que tu vas toujours être cohérent? Est-ce que tu vas leur donner des vraies clés? Est-ce que tu vas leur donner de l'indépendance? Est-ce que tu vas leur donner un vrai savoir utile et bénéfique? Ou est-ce que tu vas devenir tomber dans de l'automatisme où tu transmets des choses juste pour les transmettre? Et en fait, au final, à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose qui suit. Donc, il faut être dans de la reconnaissance et dans de l'humilité pour pouvoir véritablement reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui le plus important. C'est pas la quantité, c'est pas le nombre, c'est pas même mon projet ou là mon institut ou là mon ceci ou là mon cela. Tout ça, ce ne sont que des moyens. Hein, parfois, on s'attache à l'étiquette de notre organisation, parfois, on s'attache à la taille de notre mosquée, parfois, on s'attache à... Tout ça, ce ne sont que des outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne qui peut nous enlever. Et on est éprouvé par la richesse, comme on est éprouvé par la pauvreté, comme on est éprouvé par la quantité importante, comme on est éprouvé par la quantité faible. Ça, ce n'est pas entre nos mains. Et donc, dans chaque situation, reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus important. Et être reconnaissant qu'il nous a mis dans une situation où on a conscience de lui, où on est capable, alhamdoulilah, d'agir pour lui, etc. Ou en tout cas, on essaye. Wastaghfirhu. Parce que dans tous les cas de figure, même dans cette reconnaissance-là, on sait qu'il y a des éléments qu'on fait mal. Et en particulier, plus il y a du nombre, ben, faire attention, parce que c'est encore plus difficile parfois de bien faire et d'être attentif à chacun, etc. Donc on demande pardon à Allah pour nos manquements, dans la manière dont on transmet, dans la manière dont on agit, dans la manière dont on gère, etc. En étant convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accueille au repentir. C'est-à-dire que ce n'est pas une pression négative. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas wastaghfiruhu et puis point. Innahu kana tawwaba. C'est-à-dire qu'il nous annonce qu'il accueille au repentir. Donc ce n'est pas une pression dans le sens de toute façon la quantité c'est mauvais, vous faites n'importe quoi, etc. Non. C'est soyez en alerte. Ce n'est pas parce que il y a des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a données, qui fait que les gens viennent vers cette facilité-là, parce que c'est la nature humaine de venir vers là où il y a de la facilité, que ça y est, tu penses que tu es le meilleur. Non, sois humble, sois reconnaissant, corrige tes fautes, mais sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est accueillant au repentir. Donc, sois en alerte, mais sois en confiance dans cette alerte-là. Donc ça, c'est, je pense, un élément important, parce qu'on vit une époque où, au-delà même de nos instituts, etc., des phénomènes réseaux sociaux, c'est combien t'as de vues, combien t'as de personnes, combien t'as de ceci. Même là, on fait un podcast, combien y a de personnes qui ont vu. Qui est 1000 ou qui est 2 ou qui est 3, c'est pas important. C'est qu'est-ce que chacun va en faire? Comment chacun va l'utiliser? Comment ça va être exploité? Est-ce que c'est véritablement bénéfique pour le quotidien des gens? Tout ça, c'est ça qui est véritablement important. Est-ce que ça permet d'amener l'islah dans nos familles? Est-ce que ça permet l'islah dans nos cœurs, l'assainissement? Est-ce que ça permet d'amener un meilleur comportement au quotidien avec nos parents, avec nos voisins, avec et que ça nous permet d'être parmi de faire en sorte que le message se diffuse de plus en plus. Ou est-ce que c'est une quantité juste pour une quantité? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les phénomènes réseaux sociaux, parfois, on est beaucoup dans la quantité. Hein, des gens qui vont poster juste pour poster. Et des gens, ils te disent, tous les jours, il faut que tu postes si tu veux entretenir une dynamique de machin, etc. Pourquoi si tu n'as rien à dire, tais-toi. C'est pourquoi tu veux poster tous les jours. Tais-toi si t'as rien à dire. Maintenant, essaie de réfléchir à qu'est-ce que tu as à dire de pertinent. Et si tous les jours tu as quelque chose à dire de pertinent, dis-le. Hein? Comme il dit le prophète, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Hein, celui qui a foi en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc si tu as du bien à dire, alhamdoulilah, partage-le et essaye de faire en sorte. Mais le critère, c'est pas combien de personnes tu vas toucher. C'est est-ce que les personnes que tu vas toucher, ça va apporter quelque chose? Ça va assainir quelque chose, ça va modifier quelque chose, ça va apporter du bien. Donc, et encore une fois, je ne suis pas ça dans l'esprit de dire s'il y a de la quantité, c'est mauvais. C'est pas ça le propos. Hein, le prophète Sam, il a eu du monde. Donc c'est aussi que il a eu peu de personnes aussi avec lui. C'est que c'est pas un critère d'évaluation en fait. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on évalue beaucoup avec ça, alors que c'est plutôt un critère qui détermine les ingrédients de l'épreuve. Comment on gère une épreuve où il y a du monde, ou une épreuve où il y a pas peu de monde, une épreuve où il y a de la pauvreté, une épreuve où il y a de la richesse, on ne gère pas de la même manière. Hein, Sourate Al-Hadid, elle est révélée dans une période où il y a de la richesse. Elle nous apporte les clés de comment on gère la richesse. Hein, alors que d'autres sourates sont révélées dans des moments de pauvreté. Donc on a, c'est un ingrédient de l'épreuve. Ça, c'est comment on va gérer tel type d'épreuve ou tel type d'épreuve. Par contre, la réussite, C'est une autre définition. Et là, bon, il faudrait revenir sur le premier verset, et même peut-être qu'il y a le verset de Sourate al-Fath qui est encore plus symbolique de ça. C'est ce qui permettrait de définir la réussite. Je ne vais pas faire plus long que ça, mais il y a une vraie définition de la réussite dans la tradition musulmane, et peut-être qu'on y reviendra lors d'autres interventions. Mais quand Allah il nous dit dans Sourate al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina, et qu'on voit à quel moment il le dit. Le fait, il n'est pas annoncé au moment de Fath Mecca, il n'est pas annoncé au moment de quand les gens rentrent en masse dans la religion. Il est annoncé quand ils repartent après le Hudaybiya, alors qu'ils n'ont pas pu faire leur Umrah, qu'ils venaient de sortir d'une défaite militaire, etc. Donc c'est un contexte différent. Je ne vais pas lancer le sujet maintenant, mais il y a plein d'ingrédients à trouver dans Sourate al-Fath sur la définition de ce que c'est que la réussite et la victoire. Wallahu a'lam. Je te laisse
Très
peut-être
compense.
réagir, Inch'Allah.
Ouais, j'ai réagir,
On est bon.
c'est sûr. Tu disais plutôt que parfois on a une conception de la réussite faussée. Alors, comme tu viens de le dire aussi, on peut pas forcément rentrer dans quelque chose de soit trop général parce que ça demanderait de faire des liens avec d'autres versets et ça prendrait beaucoup de temps. Mais conceptuellement, en fait, là, quand on voit dans cette sourate que on parle du secours de Dieu, Dieu parle du secours d'Allah. Et la victoire, le fait. J'ai l'impression parfois qu'on associe cette sourate à des choses qui ne sont pas vraiment pertinentes par rapport à cette sourate. Quelqu'un a obtenu un diplôme, il va croire que c'est le secours d'Allah, tu vois, ou bien quelqu'un qui est atteint d'une maladie, qui est soigné, ou quelqu'un qui a réussi à se marier. Je suis pas sûr, hein, mais je ne pense pas que ce verset-là fasse référence à ce genre de victoire, entre guillemets, ou de réussite personnelle. Et du coup, ma question, c'est quelle situation est adéquate pour qu'on mérite en fait d'avoir le secours d'Allah et la victoire.
J'ai dit qu'on va pas ouvrir le sujet de la victoire, mais t'as ouvert le sujet de la victoire, Inch'Allah.
Peut-être que je peux donner
On
avant
peut
que
donner
tu répondes, parce que
quelques
j'y ai réfléchi, donc enfin, juste pour voir si je suis un peu à l'ouest ou pas, mais j'y ai réfléchi. Et en fait, par rapport à cette sourate, hein, si je l'isole, dans ma compréhension de cette sourate, pour avoir le secours d'Allah et sa victoire, on voit bien que c'est associé à une vision claire. Donc là, il y a une vision qui est de propager le message d'Allah et de voir les gens rentrer dans la religion. Ça doit commencer forcément par une vision. Et là, on voit que la vision, elle est associée à propager l'adoration d'Allah et faciliter son adoration. Pour moi, du coup, ça, c'est un prérequis fondamental, parce que s'il n'y a pas de vision, pourquoi est-ce que tu aurais la victoire de Dieu si toi-même, tu n'essayes pas d'avoir le secours d'Allah et la victoire? Donc c'est numéro un. Numéro deux, c'est faire face à une opposition. Si on parle de Fath Mecca, ben, ils ont une opposition face au Quraysh. Et ensuite, ils font preuve de détermination et de patience. Donc il y a un travail sur le long terme, tout en continuant à implorer le secours d'Allah. D'ailleurs, il y a d'autres versets où Dieu évoque aussi Allah, inna nasallahu qarib, quand les compagnons demandent, et que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Dieu. Donc pour moi, c'est un peu ça les prérequis en fait pour espérer avoir le secours d'Allah. Ça commence pas à partir de rien. C'est pas juste quelque chose, tu réussis quelque chose et c'est le secours d'Allah. En tout cas, pas dans cette sourate. Peut-être dans d'autres sourates, mais en tout cas pas ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ben, après, sur la question, et comme je disais, de la réussite, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de développer, parce qu'il y a le fait qui est on pourrait traduire par la réussite ou l'ouverture, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala, il amène des solutions. Et ça, il y a plusieurs passages dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle, mais Sourate al-Fath est vraiment un des endroits privilégiés pour traiter ce sujet. Donc, à la limite, il faudra peut-être y revenir un jour. Le contexte aide aussi à comprendre. D'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fatahna laka fatham mubina, la chose qu'il dit derrière, liyaghfira laka Allah, l'objectif de ce fait, liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Donc on se rend compte, subhanallah, que la perspective de comment on comprend ce que c'est que le fait, on s'attend pas au moment où on te dit tu vas avoir la victoire pour que Allah te donne la richesse, pour qu'il te donne un royaume, pour qu'il te donne le pouvoir sur les gens, pour qu'il et d'ailleurs beaucoup de musulmans comprennent même la victoire dans ce sens-là, le jour où on va avoir un califat avec des musulmans qui vont ceci, qui vont cela. C'est pas ça le fait. C'est pas ça le fait dans la définition qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne et qu'il en donne au prophète alayhi salatu wa salam. Donc bref, ça c'est faudrait y revenir parce qu'il y a une vraie définition et Nasr. En tout cas, au-delà de ce qui est particulier dans la notion d'Al-Nasr dans le Coran, c'est qu'elle est toujours associée à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a le terme Nasr qui peut être mentionné de manière spécifique, indépendamment de ça, mais à chaque fois qu'elle est reliée à quelqu'un, Elle est reliée à Allah subhanahu wa ta'ala. Nasr, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est surtout une éducation au-delà de qu'est-ce qui va se produire dans ma vie, diplôme, pas diplôme, ceci ou cela. C'est que le secours, il est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, quand on a des situations de difficulté et autres, en fait, ça nous interroge plus sur vers qui on va chercher du soutien. Hein, Iyyaka na'budu. On ne dit pas que Iyyaka na'budu dans le Fatiha. On dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. En réalité, normalement, quand on est dans une vraie démarche de foi, le seul soutien qu'on devrait demander, c'est le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, isti'ana, c'est la demande d'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bon, là, ce passage a été beaucoup commenté, comment ça se traduit, est-ce que tu peux demander de l'aide à une personne ou pas, etc. Mais dans le fond, en réalité, c'est qu'on devrait se servir des aides qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route, mais sans chercher plus d'aides différentes qui sortent du cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi, ou du cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route. Et donc, un nasr, c'est véritablement être conscient que la solution à mes problèmes, elle ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que je ne la peux chercher que dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préétabli pour moi, que ce soit à travers les règles qu'il a établies. Si tu vas le chercher dans le haram, dans quelque chose qui est douteux, bah forcément tu vas te perdre. Au-delà de ça, c'est que pour aller chercher le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des moyens. C'est-à-dire que comment on fait pour aller chercher le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si on dit bah, je ne peux pas demander de l'aide aux voisins, je ne peux pas demander de ceci, c'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. C'est que pour chercher de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est aussi une autre approche. Yansurullah, hein, si vous secourez Allah, il va vous secourir. C'est-à-dire que celui qui veut le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, la problématique, ce n'est pas de pas demander aux autres. C'est est-ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment est-ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est en se mettant au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que celui qui veut véritablement demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème. Lève-toi, certes, demande-lui et traduis-le en acte. Va, c'est-à-dire que si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide dans tes problèmes, bah, sois un maillon de la chaîne et toi, va aider quelqu'un d'autre. Toi, va aider telle personne. Toi, va aider telle ou telle. En fait, on a une approche, une compréhension des fondamentaux de l'islam qui est parfois faussée. C'est-à-dire que on est dans des mécaniques où on a construit certains concepts qui sont pas les concepts qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transmis au prophète, alayhi salatu wasalam. Et notamment la notion de réussir et la notion de secours, elle est complètement différente. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas ouais, mon projet est arrivé à telle taille, ouais, j'ai eu tel et tel et tel soutien, ou telle personnalité, elle m'a fait une lettre de recommandation, elle m'a fait ceci. C'est pas ça. En vérité, le vrai secours, c'est que oui, je suis dans une vraie démarche où je suis conscient que la solution, elle ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est quoi? C'est que moi, je me mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si je sais que le soutien ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, bah, je dois faire partie de cette chaîne-là. Et pour faire partie de cette chaîne-là, bah, il faut que je me mette au service. Et le fait, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va me pardonner. Parce que quand je me mets au service, eh ben, je vais peut-être avoir des manquements, je vais peut-être avoir des failles, je vais peut-être avoir des choses que je vais louper. Mais c'est pas grave, Allah subhanahu wa ta'ala, il me maintient dans sa chaîne à son service. Alhamdoulilah, j'ai pas perdu cette place-là malgré mes faiblesses. Et c'est ça le vrai fait, parce qu'en vérité, dans ce monde-là, que t'aies une entreprise, que t'aies une société, que t'aies un truc YouTube de je sais pas combien de personnes, ou que t'aies une famille avec 8 enfants, ou là, que t'as pas d'enfants, ou là, quoi que ce soit, c'est pas ça qui va te donner ta place dans l'éternité. La vraie réussite, elle se détermine pas au moment de notre vie. La réussite, elle se détermine au moment de la mort. C'est à ce moment-là qu'on va savoir si on a réussi notre vie ou si on n'a pas réussi notre vie. Aujourd'hui, quoi que tu fasses, à la fin, on peut pas dire t'as réussi ou là t'as pas réussi. D'ailleurs, même dans la tradition sunnite, on qualifie pas quelqu'un de martyr. C'est-à-dire que on aspire à ce que quelqu'un, quand il meurt martyr, mais on sait pas en fait, parce qu'il y a que au moment de la mort, quand Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger, qui va dire lui il est martyr. Mais ça, nous on peut pas le dire en fait. En soi, on sait pas. Bon,
Oui, donc en fait, le secours d'Allah dont il est question ici, c'est pour ceux qui veulent être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers différents moyens qui peuvent être très très variés. Mais c'est vraiment, si tu n'es pas au service d'Allah, c'est pas de cela dont il est question dans ce verset.
non, oui, parce qu'en plus, la réussite matérielle, etc., et tout, ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne comme illusion dans ce monde-là aux personnes qui se sont perdues. Ça fait partie aussi des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne à nous. On est éprouvé aussi parfois par la richesse, par la facilité, etc. La difficulté, ce n'est pas la seule épreuve. La facilité est une épreuve aussi. Qu'est-ce que tu fais? C'est responsable devant Dieu quand tu as des solutions de facilité. Quelqu'un qui a une capacité de mémorisation, quelqu'un qui a une capacité de compréhension, quelqu'un qui a une capacité d'entreprendre, quelqu'un qui a une capacité d'écoute, d'altruisme, quelqu'un. Tout ça, tu vas rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces facilités-là, quand tu te mets dans la chaîne et que tu te mets toi au service, là tu es dans le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça c'est comme il dit le prophète alayhi salam, wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au service, il est à l'aide de son serviteur tant que celui-ci est à l'aide de son frère. Donc c'est simple en fait, on est un maillon. Soit on accepte d'être un maillon dans cette chaîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée dans ce monde-là, soit on se sent meilleur et quoi que ce soit et on coupe le maillon et là on va se perdre.
Je trouve ça intéressant parce qu'il y a le mot hiver, tu vois, au tout début de la sourate. Hiver, c'est quand, enfin, lorsqu'il s'est traduit par lorsque vient le secours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de doute que le secours d'Allah, il vient. Et en sous-entendu aussi, il n'y a pas de doute que le musulman, que le musulman, il est à la recherche du secours d'Allah. Et du coup, il n'y a pas de doute que le musulman, et comme tu viens de dire, c'est quelqu'un qui va essayer de, d'être au service d'Allah et qui va essayer d'être un maillon dans, à son service.
Sachant qu'encore une fois, juste pour pas. Ça veut pas dire que si demain on a des projets où on a du monde, ça pose problème. C'est pas le propos. Hein. C'est-à-dire que demain, t'as. Professionnel, voilà, c'est passé à la fin de sa vie, il y a du monde qui a suivi, alhamdoulilah, il y a pas. Comme quand il y avait peu de monde, bah, alhamdoulilah. C'est une situation de vie. Et puis, alhamdoulilah, on est content que des gens adhèrent au message de l'islam. Mais c'est pas. Les choses s'arrêtent pas là, en fait. C'est une autre forme d'épreuve. Et on continue le travail, et on continue à œuvrer, et on continue à être attentif, à rester un maillon de la chaîne. Ou là, on se dit, eh, ça y est, moi, nous, on a un succès, on a ceci, on a cela. Et surtout, les épreuves changent. Quand tu as 5 personnes à gérer autour de toi et que tu fais un travail d'une certaine manière, etc., quand tu veux assainir les modes de vie, c'est un angle de vue, c'est une manière d'approcher, c'est une pédagogie, c'est ceci. Quand tu en as des milliers en face de toi, c'est plus la même chose. Donc, il y a une remise en question nécessaire. Donc, chacun, quand les épreuves changent, on doit forcément se remettre en question pour bah, comment je vais faire là maintenant? C'est pas. C'est pas si évident que ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que dans cette sourate, il y a beaucoup d'enseignements, mais un des enseignements, une des mises en garde, c'est les mises en garde des dangers du succès, entre guillemets, si on a bien compris la définition du succès. De pas se dire que c'est moi qui ai fait ça, c'est mon idée, j'ai travaillé dur pour avoir ce résultat, je mérite le crédit. On a l'impression qu'Allah nous dit non, c'est moi qui ai le crédit. D'ailleurs, c'est le secours d'Allah, c'est pas juste le secours. Et comme s'il insistait en fait pour dire que c'est le secours d'Allah. Et à la fin, on célèbre les louanges d'Allah. Et parfois même, c'est vrai que souvent les gens disent Alhamdoulilah, tout ça. J'ai l'impression que même parfois, cet ego qui peut se cacher même derrière Alhamdoulilah, tu vois. Et c'est ça, je pense, c'est aussi un grand danger de faire attention à. Quand on fait quelque chose pour la Oumma, on peut avoir beaucoup de compliments, on peut se dire qu'on a fait de grandes choses, et on va dire Alhamdoulilah. Mais au fond, il y a un petit truc qui est quand même là et qui est une petite impureté, une petite goutte d'ego, tu vois, qui peut contaminer le travail qui a été fait. Et moi, le croyant, on a l'impression dans cette sourate, Dieu, il pousse le croyant, du coup, à garder un sens, un grand sens d'humilité, et à remettre le crédit à Dieu.
Inch'Allah, qu'Allah nous permette de parvenir à retravailler nos intentions. Et... Parce que, alhamdoulilah, on disait, les épreuves, elles changent, en fait. Le prophète, il a été éprouvé au final par le fait que son peuple l'ait rejeté, puis il a été éprouvé à la fin par le fait qu'il a eu la victoire, et que la plupart ont adhéré, en fait. C'était une épreuve différente, avec d'autres critères, et ça reste Allah subhanahu wa ta'ala qui reste le point d'ancrage. C'est pas le modèle politique ou le modèle social ou quoi que ce soit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le repère et on doit toujours être aussi dans une démarche après fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. C'est chacun en fait. Chacun il doit être dans cette démarche-là spirituelle de se remettre en perspective par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a tous, quelles que soient les situations, nos propres faiblesses et nos propres manquements et nos propres qualités aussi.
On a fait encore un peu long aujourd'hui, décidément on a du mal à garder sa cour. Et voilà, du coup, je vais te laisser conclure, Inch'Allah.
Avec Allah fik, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, de nous pardonner nos péchés, nos fautes et nos manquements, de nous établir parmi les musabbihin, ceux qui reconnaissent sa toute-puissance et que c'est lui qui est le plus important. Et de nous aider à conformer nos vies avec cet enseignement et avec les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, les enseignements du Coran. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la rectitude. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire rayonner le Coran dans nos cœurs, dans nos demeures, dans nos tombes, hein, et de nous accorder les plus hauts degrés du paradis par la récitation du Coran. et d'être parmi ceux à qui il accordera le dévoilement, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir ainsi que nos familles et nos proches auprès du prophète alayhi salatu wa salam, et de nous permettre de nous réunir dans des espaces de foi dans ce monde-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك
Toute récompense, Fathallah. Inch'Allah, pour un prochain
آمين
épisode très vite. Et salam alaikum à tous les auditeurs et les auditrices.
السلام
Salam alaikum.